Bonjour à tous. 26,41% la participation à midi au second tour de l'élection présidentielle est en recul de près de 2 points par rapport à 2017. Pour l'instant, le Gers est le département qui a le plus voté, la Seine-Saint-Denis, celui qui a le moins voté. Nous serons dans un instant au ministère de l'Intérieur. Reportage dans des bureaux de vote à Paris et à l'étranger, à Jérusalem. Dans l'actualité également, la guerre en Ukraine qui entre dans son troisième mois. Aujourd'hui, l'ONU appelle à une trêve immédiate à Mariupol pour évacuer les civils. Et en ce dimanche, les Ukrainiens célèbrent la Pâque orthodoxe en bravant pour certains les bombardements. L'actualité sportive avec le 10e titre de champion de France pour Paris. Un titre sans effusion et avec une partie silencieuse du public. Un visite au journal, Jérôme Alonso, consultant football de France Inter. Et puis en cyclisme, Liège-Bastogne-Liège. Objectif de Julian Alaphilippe. Philippe, le double champion de France français. La météo, des averses et des orages avant une amélioration par le sud. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
C'est toujours le premier chiffre officiel à midi, un jour d'élection. Le taux de participation est de 26,41% pour ce second tour de l'élection présidentielle. En direct du ministère de l'Intérieur, on retrouve Gaëlle Joly. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Alors, participation à midi en hausse par rapport au premier tour, 25,48%, mais en baisse de près de 2 points par rapport au second tour il y a 5 ans.
Oui, 26,41%. C'est un point de plus qu'il y a 2 semaines au premier tour. Mais vous le disiez, 2 points de moins qu'il y a 5 ans, avec déjà à l'époque la même affiche, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Un taux qui avoisine celui de 2002, quand Jean-Marie Le Pen affrontait Jacques Chirac. À midi, les départements où on a le plus voté, ce sont le Gers, 34,46%, suivi du Jura, de l'Ain et des Landes. Ceux où on a le moins voté, ce sont les départements d'Île-de-France, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Paris et la Seine-Saint-Denis, le 93, où le taux s'élève seulement à 15,37% à midi. À Paris, c'est 20,71% des électeurs qui se sont déplacés, mais à relativiser, hein, puisque c'est 5 points de plus quand même par rapport au premier tour il y a 2 semaines. À noter, une hausse de participation dans les Outre-mer, en Polynésie et aux Antilles. On a déjà commencé à voter hier, plus 1,1% en Guadeloupe, plus 7,1% en Martinique.
Gaëlle Joly, en direct du ministère de l'Intérieur, merci. Taux de participation donc à midi de 26,41%. Ce matin, Marine Le Pen a voté dans son fief d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Emmanuel Macron est attendu au Touquet. Il est devant le bureau de vote en ce moment, dans le Pas-de-Calais également, pour voter. Les Français, 48 700 000 électeurs inscrits sur les listes, sont appelés aux urnes. Alors, y a-t-il du monde dans les bureaux de vote? On retrouve à Paris, lycée Voltaire, dans le 11e arrondissement, Mathilde Dehimy. Bonjour Mathilde.
Bonjour Frédéric.
C'est l'heure du déjeuner. Faut-il patienter avant de mettre son bulletin dans l'urne?
Et non, il y a moins de monde pour l'instant qu'au premier tour. Il faut dire que plus de 80% des électeurs inscrits s'étaient rendus aux urnes il y a 15 jours. Et à midi, ils étaient un peu plus de 500, soit 27% de participation, donc dans la moyenne nationale. Constat partagé par Thérèse. Au premier tour, il y avait la queue dans la cour du lycée.
La dernière fois, je suis venue une première fois, j'ai vu le monde, je suis repartie chez moi. Et ensuite, je suis revenue là, fluide, rapide, impeccable. J'ai aucune hésitation ni doute.
Pas de doute pour beaucoup d'électeurs pour qui la question de se déplacer jusqu'au bureau ne se pose pas, comme Daniel.
J'ai pas hésité à venir parce que je vote régulièrement. J'ai tenu compte de tout ce qui avait été évoqué autour de la campagne, personnalité des deux candidats, voilà.
Ici, au premier tour, les électeurs ont placé Jean-Luc Mélenchon largement en tête devant Emmanuel Macron. Marine Le Pen, dans ce bureau, est arrivée en 5e position. Maïna a 20 ans. C'est la toute première fois qu'elle dépose son bulletin dans l'urne, car au premier tour, elle a fait une procuration. Elle est émue par l'enjeu.
Hésiter entre les deux candidats, non, mais hésiter entre blanc abstention, oui, parce que je n'étais pas totalement en accord avec les candidats du second tour. Mais je me suis dit que voter restait quand même un acte très important. Et surtout en tant que femme, il y a à peine 100 ans, on n'avait pas le droit de vote. Donc pour moi, c'était quand même très important d'y aller quand même.
Au premier tour, il y a eu ici peu de votes blancs ou nuls, 21. On verra donc ce soir à la fermeture à 20h si ce chiffre est en augmentation.
Mathilde Dehimy, bureau de vote du lycée Voltaire avec Virginie Lorda. On vote également à l'étranger, notamment en Israël, où l'on espère que le taux de participation sera plus élevé qu'au premier tour, où des records d'abstention avaient été battus. Il semble que ce soit différent pour ce second tour de la présidentielle. Sur place à Jérusalem, Michel Paul.
Bonjour monsieur.
Le second tour de la présidentielle à Jérusalem en pleine tempête de sable.
Allez-y, à voter. Merci.
Cela se passe au lycée français de la ville. Objectif, un meilleur score qu'il y a deux semaines en ce qui concerne le taux de participation. Pierre, le président du bureau de vote, explique.
Il y a un petit peu plus de participation qu'il y a deux semaines. Après, voilà, la participation s'établissait à 11% au premier tour. Et s'établissait à 19% au premier tour en 2017. Donc il y a quand même une baisse significative.
La grande majorité des électeurs détiennent la double nationalité. C'est le cas de Aaron.
Je me sens encore complètement lié à la France, c'est mon pays. Je suis et français et israélien. Pour moi, c'est un devoir d'aller voter.
Abstention, connaît pas, proclame de son côté Isaac. Il faut trancher.
Maintenant, les gens, ils doivent décider, ou l'un ou l'autre. Ils n'ont pas le choix.
Quant à cet électeur, il résume la situation en une formule.
On a voté de bonne humeur.
Un point de vue qui n'est pas nécessairement partagé par tous. Jérusalem, Michel-Paul RFI pour France Inter.
Et le second tour de l'élection présidentielle à suivre bien sûr ce soir sur France Inter. Soirée électorale animée par Claire Servajan et Jérôme Cadet à partir de 19h. Décryptage, analyse avec de nombreux invités, tour des QG et des lieux où les deux candidats ont donné rendez-vous à leurs militants pour cette soirée avec nos envoyés spéciaux. Et bien sûr les premières estimations à 20h avec notre partenaire Ipsos Sopra Steria. Une agression ce matin à Nice, un prêtre a été attaqué au couteau alors qu'il célébrait la messe dans l'église Saint-Pierre d'Arène. Le prêtre est blessé, son pronostic vital n'est pas engagé. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
L'agresseur, lui, a été interpellé.
Oui, il s'agit d'un jeune homme d'une trentaine d'années de nationalité française, connu pour avoir été hospitalisé plusieurs fois en psychiatrie. Il a été interpellé tout de suite, sans difficulté, et a expliqué spontanément aux policiers qu'il était de confession juive et que, en ce jour d'élection, il voulait tuer Emmanuel Macron avant d'avoir finalement décidé de se rabattre sur une église. À ce stade, pas de piste terroriste envisagée, selon une source policière, plutôt le geste d'un déséquilibré. Un homme qui n'a jusqu'à présent jamais eu affaire à la justice n'était pas fiché. Son père a précisé aux enquêteurs qu'il était bipolaire et schizophrène et qu'il exprime un fort ressentiment à l'égard du président de la République. Le prêtre pris pour cible a été hospitalisé au CHU de Nice. Une autre personne a été blessée, une religieuse, selon le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti. Elle est intervenue pour arracher le couteau à l'agresseur et est touchée à la main.
Ariane Grissel, merci. Dans l'actualité également aujourd'hui, 2 mois de guerre en Ukraine avec aujourd'hui à Kiev la première visite officielle annoncée de représentants du gouvernement américain depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin doivent rencontrer le président ukrainien Zelensky. Les discussions porteront sur les livraisons d'armes et alors que l'Ukraine entre dans son 3e mois de guerre, les combats sont incessants. À Odessa, hier, les frappes russes ont tué au moins 6 personnes, dont un bébé, selon Kiev. Il n'y a pas de trêve pour la Pâque orthodoxe. Les autorités ukrainiennes ont appelé les fidèles hier à suivre les cérémonies de la Veillée Pascale en ligne. Cérémonie également à Kiev ce matin. Reportage de notre envoyé spécial Farida Noir.
Fin de la liturgie de Pâques, les fidèles sortent de l'église étincelante, se positionnent en arc de cercle devant l'édifice. Le prêtre bénit chacun d'entre eux et les paniers que tous ont apportés, garnis de crachats et pisanka, des œufs, et de pasca, les brioches de Pâques. Zirka recouvert ses cheveux d'un foulard coloré. Le mari de sa sœur est dans l'armée ukrainienne, sa petite fille et son mari engagés dans les brigades territoriales.
C'est très important pour nous, particulièrement cette année, parce que dans ce malheur, on a besoin d'espérance et de joie. Là, je lis le psaume 90, le plus fort pour la protection de Dieu.
Sur le parvis de l'église Saint-Michel, des hommes et des femmes en treillis militaires, Alexander fait partie des brigades territoriales.
Sans foi, il est impossible de supporter tout ce qu'on supporte. Notre nation et notre peuple sont très croyants et ça nous aide beaucoup à endurer tout ce qui se passe, à défendre notre terre, notre peuple et notre indépendance.
Dans le panier de Léna, une bouteille de vin, des cierges et de jolies broderies, cette petite femme blonde veut croire en la victoire de son pays.
L'Ukraine se relèvera, se libérera de l'invasion des occupants. Le peuple est digne et mérite de vivre en paix.
Je vis en sachant qu'au bout, il y aura la paix, espère-t-elle.
Envoyés spéciaux en Ukraine, Farid Anouar et Fabien Gosset. Cette guerre, qui dure depuis 2 mois, a été riche en enseignements militaires, notamment pour les états-majors occidentaux, mais aussi pour les services de renseignement, et notamment la CIA, les renseignements américains, qui se sont montrés particulièrement fiables. La CIA avait annoncé l'entrée des troupes russes en Ukraine, et les informations communiquées presque en temps réel ont permis de redorer le blason de l'agence. La CIA avait été surprise par la chute éclair de Kaboul l'été dernier et s'allie également par l'affaire des armes de destruction massive en Irak. New York, Loïc Loury.
Le 2 novembre dernier, le directeur de la CIA, Bill Burns, se rend à Moscou pour des entretiens avec Vladimir Poutine et pour cause, la Maison-Blanche s'inquiète déjà de mouvements de troupes suspects aux frontières de l'Ukraine présentés comme des exercices. Immédiatement, la puissante agence de renseignement se met en branle et accouche dès janvier d'un plan prévoyant avec une étonnante précision les axes d'attaque du Kremlin vers Kiev, Kharkiv ou Mariupol. Contre son habitude, elle décide alors de dévoiler au grand public une masse d'informations sur les forces en présence et l'imminence d'une invasion, histoire notamment de prendre de court Moscou et sa désinformation. À l'arrivée, et malgré le scepticisme initial face à ces mises en garde quasi quotidiennes, force est de constater que le renseignement américain avait vu très juste, excepté sur une chose, la résistance farouche qu'opposerait l'Ukraine dans la durée à son puissant voisin. New York, Loïc Loury, France Inter.
À l'étranger encore, au Liban, 9 corps de migrants, dont celui d'une enfant, ont été repêchés après le naufrage de leur navire. Selon les autorités libanaises, près de 50 personnes ont pu être secourues. Le bateau avait mis le cap sur Chypre et l'Europe. Sur place à Beyrouth, Aurélien Couli.
170 km, c'est la distance qui sépare les côtes du Liban de celles de Chypre. 170 km pour passer en Europe, échapper à une vie de précarité, de pauvreté, dans un Liban en décomposition, miné par le chômage, où la monnaie a perdu 95% de sa valeur. Principaux candidats au départ, les réfugiés syriens. Ils sont 1 million dans le pays. Leur vie était déjà difficile avant la crise économique et financière. Elle est devenue misérable. 95% sont dans l'extrême pauvreté selon l'ONU. Mais avec eux désormais aussi, dans ces embarcations qui tentent de rejoindre Chypre entre le printemps et l'automne, de plus en plus de Libanais, originaires surtout du nord de la région de Tripoli, la ville la plus pauvre du Liban et du bassin méditerranéen. C'est à cause des politiciens qui forcent les Libanais à quitter le pays, déclarait hier à la presse locale un homme qui attendait des nouvelles d'un proche monté sur le bateau qui a fait naufrage. La classe politique libanaise, accusée d'avoir mis le pays à genoux par son clientélisme et par sa corruption. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Et puis au large du Japon, un bateau touristique a fait naufrage. 10 personnes sont mortes, 16 sont portées disparues. Le navire a pris la mer malgré une mauvaise météo. Le football et Paris qui a décroché hier son 10e titre de champion de France en partageant le nul un partout contre Lens et en supériorité numérique pendant plus de 30 minutes. Le PSG champion pour la 10e fois donc, et c'est pourtant un titre sans effusion et obtenu face à une partie silencieuse de son public, à l'image de ce supporter du PSG au micro de Nicolas Perronnet.
C'est une manière de montrer qu'on veut des guerriers sur le terrain. C'est normal qu'on soit champion, on a le plus gros budget, mais franchement, c'est très très fade pour moi. C'est très très fade. J'ai vu des matchs soporifiques, et là on est champion. Je suis content sans plus, voilà. Content sans plus.
Voilà, un supporter du PSG avec Nicolas Perronnet. Invité de ce journal, Jérôme Alonso, consultant football de France Inter. Ancien joueur de Saint-Etienne et du Paris Saint-Germain, les deux clubs français les plus titrés à égalité. Depuis hier soir en championnat de France, bonjour Jérôme Alonso.
Bonjour Frédéric.
Alors le journal L'Équipe titre aujourd'hui l'étoile sans éclat. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
C'est parce que l'étoile signifie le 10e titre en football. Lorsque vous avez 10 titres, vous êtes en droit de broder une étoile au-dessus de votre écusson. Donc c'est plus la décennie ponctuée par ce titre bizarre qui est pointé du doigt par nos confrères de l'équipe que le titre en lui-même. Et effectivement, il y a une vraie nébuleuse depuis quelques mois autour du PSG et qui fait que effectivement la fête est un petit peu gâchée, oui.
Le fait qu'une partie des supporters ait quitté la tribune du Parc des Princes avant la fin du match, est-ce que cela vous surprend ?
Vous savez, quand on a joué 7 ans au PSG dans les années 2000, il n'y a plus grand-chose qui vous surprend, Frédéric, je peux vous garantir. Donc non, j'ai pas été surpris plus que ça, parce qu'encore une fois, il y a une contestation qu'il faut entendre, qu'il faut essayer de comprendre. On n'est pas obligé de partager les sentiments des supporters, mais il faut essayer de la comprendre et de l'entendre. Il y a un sentiment d'abandon chez eux, de la part des dirigeants, de la part des joueurs, et c'est vrai que ce titre de champion de France ne leur suffit pas. On leur avait promis la Lune, et la Lune, c'est la Champions League. Et ça fait 10 ans maintenant que le projet échoue à ce niveau-là. Ils ont voulu faire entendre leur voix. Alors qu'on soit d'accord ou pas, il faut le comprendre et l'accepter.
Alors cette colère et cette rancœur après l'élimination en Ligue de Champions est toujours présente. On a en mémoire le coup de gueule assez violent de Yannick Noah sur les réseaux sociaux, qui avait dit « j'en ai marre de cette équipe qui pomme tout le temps », avait-il dit. C'est vraiment une équipe qui pomme tout le temps, le PSG, sauf en championnat de France.
Ah ben en Champions League, malheureusement, c'est dur de donner tort à ceux qui se moquent du PSG. C'est vrai que le projet stagne à ce niveau-là. Voilà, le plafond de verre, c'est la finale. On peut considérer que la génération Ouéa, Ginola, Lama avait presque fait mieux en Champions League. Donc effectivement, il y a aussi une nostalgie naissante de la part des supporters où ils se retrouvent plus dans cette génération-là que dans l'actuelle, malgré les stars. Un président absent hier, vous vous rendez compte, Frédéric, c'est pas commun. Le Bayern de Munich a été champion hier aussi, et tout l'état-major était là, et tout le monde a fait la fête. Et hier, au Parc des Princes, Nasser El Khelaifi n'était pas là. Donc oui, effectivement, tout ça souscrit un peu au mystère et au malaise et au mal-être qui entoure un peu ce club malgré le titre.
Vous diriez que le recrutement a été décevant?
On dit souvent qu'il y a 50 millions de sélectionneurs d'équipe de France dans notre pays, et il y a aussi 50 millions entraîneurs du PSG. On aurait tous fait différemment. Encore que, est-ce que Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, il est pour grand chose? Lui, on lui impose des choix. Donc, c'est pour ça que c'est un club qui est extrêmement compliqué à coacher, parce que ce sont des gouvernances multiples, des gouvernances qui ont fait un choix souvent du marketing. Et ça, en revanche, la mission est réussie. Aujourd'hui, le PSG est devenu, au point de vue marketing, une marque mondiale reconnue. Le PSG a une boutique de maillots à New York. C'est la seule équipe européenne qui a cet honneur-là. Donc, voilà, sur le projet marketing et reconnaissance de la marque mondiale, c'est une réussite à 100%. Donc il y a un volet du projet qui est réussi parfaitement et l'autre qui l'est moins.
Alors justement, sur le plan sportif, le club, le PSG, est en chantier. Est-ce que l'ambiance actuelle, les résultats obtenus par le club sont de nature à résoudre les questions qui se posent autour de Mbappé? Va-t-il partir? Va-t-il rester? Les questions autour de Zidane? Va-t-il venir? Va-t-il ne pas venir? Est-ce que cela va donner envie à Zidane de venir, par exemple, s'il devait venir?
Oui, ou Mbappé de rester.
Ou Mbappé de rester.
On peut voir ça aussi comme ça. Vous savez, Kylian Mbappé et Zinedine Zidane ont un point commun, c'est que l'argent est plus un problème pour eux. Ça veut dire que malgré tous les euros ou les dollars ou ce que vous voulez que proposeront les l'état-major qatari, c'est pas ça qui leur fera changer d'avis pour Kylian Mbappé ou franchir le pas pour Zidane. On est sur autre chose. Zidane, c'est quelqu'un qui a besoin de challenge, mais qui est marseillais de cœur, qui est aussi un ambassadeur du Qatar. C'était un des premiers pour la Coupe du Monde à faire campagne pour le Qatar. Donc il y a un lien, le lien existe. Maintenant, est-ce que lui, le Marseillais de naissance, viendra pour un long bail au PSG? C'est une vraie question. Est-ce que Mbappé renoncera une nouvelle fois à son club de cœur, le club de ses rêves, qui est le Real Madrid, pour prolonger au PSG dans un projet incertain? C'est effectivement beaucoup, beaucoup de questions. Mais c'est vrai que si le PSG devait se retrouver orphelin de Kylian Mbappé, ça serait un vrai, vrai coup dur, parce que vous ne remplacez pas un meilleur joueur du monde comme ça. Ça serait une vraie, vraie grosse perte.
Il faut un projet sérieux.
Pour lui, oui. C'est sûr que, au-delà de l'argent, comme je vous le disais, Kylian Mbappé, ce qu'il veut, c'est des émotions, un projet, de l'empathie, se sentir aimé, se sentir important. Donc, malheureusement, le challenger du PSG, c'est le Real Madrid, le plus grand club du monde, donc qui est le rêve de Mbappé. Donc, c'est compliqué. Vous pouvez pas lutter contre un joueur qui aura tous les millions d'euros qu'il veut dans sa vie. Lutter contre un rêve, c'est difficile pour nous.
Jérôme Alonso, consultant football de France Inter, interview réalisée un peu avant ce journal. Le sport aujourd'hui, c'est aussi le cyclisme, avec une course classique, peut-être la plus exigeante de la saison, Liège-Bastogne-Liège. Deux favoris, le français double champion du monde, Julian Alaphilippe, et le belge Wout van Aert. Et le départ de la 108e édition a donc été donné en milieu de matinée. On retrouve en direct Fanny Lechevestrier. Bonjour Fanny.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Et cette course Liège-Bastogne-Liège, c'est l'objectif cette année de Julian Alaphilippe.
Oui, il ne s'en cache pas. Il aime répéter qu'il rêve de remporter ce monument plus que tout autre depuis sa première participation en 2015. Première participation où il s'était classé deuxième, comme l'an passé d'ailleurs. Alors, est-ce que la 108e édition de la Doyenne sera la bonne pour le Français? Sur le papier, c'est peut-être la première fois où il ne fait pas figure de grandissime favori après un début de saison compliqué, marqué par les chutes. Mais quand on lui fait la remarque, il vous répond que lui se dit soulagé de n'avoir finalement pris que la 4e place mercredi de la Flèche Wallonne et qu'il est prêt à relever le défi. Alors en attendant les principales difficultés du jour, on pense à la côte de Denier, à la côte de la Redoute et bien sûr à la côte de la Rochefaucauld. Il fait rouler son équipe à l'avant du peloton pour maintenir l'écart avec un écart raisonnable avec 11 échappés et à 131 km de l'arrivée. Cet écart est de 6 minutes 20. Un mot, Frédéric, de la course féminine. Elle a été remportée en solitaire et avec la manière par la néerlandaise Annick Van Vleuten. Superbe course féminine qui vient de se terminer il y a à peu près une heure.
Fanny Le Chevestrier, merci. Et pour terminer ce journal, on va regarder le ciel de Berck dans le Pas-de-Calais avec les 35e rencontres internationales de cerf-volant. Ce festival est de retour jusqu'au dimanche 1er mai avec des ballets chorégraphiques chaque jour. Hier, des milliers de personnes sont venues admirer des baleines géantes, des pieuvres ou encore des dragons. Près de 500 passionnés de cerf-volant sont attendus du monde entier avec leurs plus belles créations sur ces 12 km de plage. Reportage Diane Sprimont, France Bleu Nord.
Agenouillé dans le sable, Yanis a les yeux aimantés par les couleurs.
J'ai l'impression d'être dans un film de tellement de cerfs-volants parce qu'il en a plein.
Mais pour ce petit garçon de 7 ans, il y a un cerf-volant qui est encore plus impressionnant.
La baleine bleue, ça change de couleur. Du coup, ça me fait rêver des rêves. Ça me fait des rêves comme des baleines. Sont à mon anniversaire.
Parce que c'est ton anniversaire aujourd'hui.
Non, mais le 30 mai. Le 30 mai, ils vont venir à mon anniversaire.
Alors pour certains, les cerfs-volants, ça permet de fêter son anniversaire avec des baleines. Pour d'autres, c'est une sorte d'exutoire. Joss est cerf-voliste. Il déroule un triangle blanc et noir long de 10 mètres.
Et je vais lancer. Voilà. Maintenant, on attend le vent.
Ce cerf-voliste belge a tout cousu main.
On a des cerfs-volants qui nous ont mis 800 heures, pas cerfs-volants. Quand je suis ici, il n'existe plus rien. Je fais un boulot très stressant et quand on fait ça, tout le stress c'est parti. On arrive dans un monde imaginaire, donc je suis resté enfant, disons.
Un éternel enfant qui a ramené toute sa collection de cerfs-volants. Une vingtaine de créations attendent encore le décollage.
Voilà les cerfs-volants de Berck avec Diane Sprimont de France Bleu Nord. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Jean-Michel Golinski.
Un temps sec et souvent ensoleillé au nord de la Seine, du sud de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie et autour de la Méditerranée, le ciel va nettement se dégager en seconde partie de journée, alors que partout ailleurs, les nuages d'averses et parfois d'orages vont continuer à circuler, donnant d'ailleurs pas mal de pluie, en particulier de la Bretagne au centre Val-de-Loire, sur le Massif central et la Bourgogne-Franche-Comté, et de fortes averses encore une grande partie de l'après-midi sur la Corse. La tramontane et les rafales d'ouest entre la Corse et le continent seront proches de 80 km à l'heure. Et puis, le long de la Manche, le vent de nord-est va rester sensible, avec des températures maximales en baisse par rapport à hier sur l'est, de l'ordre de 3 à 4 degrés de moins. En revanche, il fera jusqu'à 5 degrés de plus dans le quart sud-ouest. Ailleurs, les valeurs vont conserver à peu près le même niveau.